Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une expression qu'on retrouve dans le manga Zetman de Masakatsu Katsura. L'expression apparaît au début de la version française dans le premier tome, lorsque le papy du jeune héros se fait couper un bras par un démon, et là il lui dit « pas de bras, pas de chocolat ».
Une belle traduction française.
Oui, c'est une traduction en effet, mais d'où vient cette expression d'une blague, figurez-vous. Mais qui a écrit cette blague? Personne ne le sait.
Les meilleures blagues.
Ça daterait des années 60. Conditionnel.
Moi, j'ai toujours eu, c'était mon père, mais...
Alors, c'est peut-être aussi ton papa dans les années 60 qui l'a écrit.
Il l'a popularisé. Est-ce qu'on est sûr que ça vient de la France?
Ouais.
Que c'est pas une traduction d'expression?
Ouais, on est sûr de tout. On est parce sûr que de rien
moi,
du tout.
Moi, j'ai toujours eu chocolat, Belgique, tu vois... Limite, je trouve que l'expression, alors, va mieux qu'à la France,
chocolat,
tu vois.
Suisse, non?
Est-ce qu'on est vraiment là pour parler de ça, ou est-ce qu'on va parler de manga?
Manga.
On peut faire les deux,
ok, bah faisons les deux. On va parler de Arms, le manga, signé Ryoji Minagawa et Kyoichi Nanatsuki au début du mois de mai. Ce titre est sorti, ce titre aux influences Akiraïen, emprunt des codes de la SF des années 90. Il est de retour en librairie, édité par les éditions Mangetsu. Certains d'entre vous ont peut-être eu la première édition entre les mains, c'était chez Kana à l'époque, mais elle a bien vieilli puisqu'elle date de 2003. Donc voilà, du tout neuf avec du tout vieux. Il s'agit donc pour les connaisseurs d'une reprise de la Wide édition japonaise. Ça vous fait une belle jambe, soit un format agrandi et une compilation des 24 tomes en 12 volumes doubles. Et autant le dire, avec un tome double de Arms, t'as un temps de lecture qui est quand même bien conséquent.
Ouais, il est pas mal, mais après, en vrai, il n'y a pas tant de texte que ça, donc ça se lit assez vite. Et c'est 22 tomes, je crois.
24 la première, 12 pour la nouvelle édition.
Ah ouais? Je suis sûr que c'était 22 la première. Il me manque 2 tomes, j'ai pas la fin.
Oh, je le savais.
Nouvelle quête débloquée.
Non, t'as peut-être raison, j'ai peut-être écrit une coquille, et c'est peut-être 22 tomes. Et
Moi, dans ma bibliothèque, j'en ai 22. Et si tu me dis qu'il y en a 24, je suis merde. Il m'en manque 2. Faut que je regarde.
Mais tu feras la première édition. Ouais. Tome 2 prévu au mois d'août et le 3 pour le mois de novembre. On va donc parler de Arms aujourd'hui, mais aussi de manga de bras. Ouais, le manga de bras, c'est un nouveau sous-genre. Et surtout, on va parler de l'influence qu'a eu Arms sur l'attaque des titans. Et tout ça, c'est maintenant, et c'est dans la cinquième de couve.
Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards. Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Arms et aussi l'attaque des titans. Bonjour Johnny, bonjour Cagnard.
Bonjour.
Pas de bras, pas de chocolat, vous l'avez fait combien de fois cette blague dans vos vies?
Zéro.
Putain, mais plein de fois.
Ah oui, mais toi, elle te colle à la peau, c'est ça, c'est une blague. C'est vrai que c'est une blague. Johnny blague, ça c'est une vraie Johnny blague.
Et l'émission suivante, c'est Santé mais pas des pieds, c'est ça?
Oh oui.
Blague préférée de Johnny à l'apéro.
J'ai hâte.
Si vous nous découvrez seulement maintenant, dommage. Nous sommes la cinquième de couve, le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant. Donc scrollez dans vos applications podcast, il y aura toujours une émission qui devrait vous plaire. Et merci à tous de nous soutenir en écoutant, en partageant, en commentant. Ça compte énormément. Aujourd'hui donc on se penche sur Arms, sur son influence sur l'attaque des titans et quelques autres mangas de bras comme Parasite, Digimon ou Dororo. Et la semaine prochaine, c'est le guide de lecture manga pour l'été avec plein de nouveautés au programme. Au sommaire donc de cette émission, je viens de vous le dire, il va y avoir un espace spoil autour de l'attaque des titans. Par conséquent, on devra un peu spoiler donc l'attaque des titans, pas la fin, hein, mais quelques petits éléments narratifs. Et c'est donc en fin d'émission. D'ici là, on va parler de Dororo, d'Ajin, de Digimon, de World Embryo ou de Parasite. Mais avant ça, on a relu le début de Arms, ce tome 1, la nouvelle édition qui vient de ressortir aux éditions Mangetsu. L'histoire de Arms, on est dans le Japon de la fin des années 90. Ryo, un lycéen, voit son quotidien bouleversé totalement. D'abord à cause d'un nouvel élève, Ayato, qui dès son premier jour dans le bahut tente de le tuer. Sympa. Puis par la découverte ensuite d'une organisation secrète, Egrégor, qui tente de le capturer, lui et Ayato aussi. Parce qu'en fait, ces deux garçons ont des bras pas tout à fait naturels. Ce sont des Arms, des armes métallico-technologico-organiques à la place des bras. Et pire, ce ne sont pas les seuls dans ce cas. Et donc, les pires raclures de la Terre veulent s'emparer d'eux et ils vont désormais devoir survivre. Ça t'a fait plaisir de relire ce volume 1 double, Joe ?
Eh ben, avec du recul, ça m'a fait super plaisir surtout. Mais avec du recul, je me suis dit que ce manga était quand même assez en avance sur son temps. On parle de transhumanisme, de nanotechnologie, je vous spoil un peu, de manipulation génétique. Et on est presque à deux doigts de parler d'IA. Et c'est surtout très sombre pour un shonen. Et il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de progression héroïque fantaisique. Il n'y a pas de progression positive surtout. On est plutôt dans une paranoïa à chaque fois. Enfin, les héros à chaque fois, ils ont dit « Bon, bah, y a une organisation qui nous suit. Est-ce qu'on va survivre ?» Une organisation aucune d'ailleurs. Les héros sont traumatisés. Il y a une violence psychologique permanente.
Et toi, Cagnard, qu'est-ce que tu... Pensez à la fin de ta lecture du premier tome.
C'était une bonne grosse session de lecture parce que t'as raison, c'est quand même un petit pavé, c'est un petit pavé à s'enfiler. Franchement, la lecture elle passe hyper vite. Alors évidemment, faut un petit peu passer outre la patte graphique qui est vraiment rétro. Hein. On peut pas faire contre
Le temps.
On peut pas faire contre le temps. Voilà. En plus, je pense que l'auteur est peut-être un peu jeune quand il démarre cette série. Donc même son dessin est pas vraiment réglé. C'est pas qu'une question que c'est un dessin à l'ancienne, il y a aussi des petites erreurs de dessin parfois et tout. Mais au final, ce que je retiens le plus de ma lecture au global quand je l'ai terminé, c'est le ton très moderne. Vraiment très très moderne, et ça je m'y attendais pas du tout sur, comme l'a dit Delo, sur la modernité des thématiques qui sont abordées, mais aussi la manière d'aborder la personnalité des personnages. J'ai trouvé que c'était très moderne et que ça marchait encore très bien là.
Ouais, vous rejoignez sur ce point, et malgré tout je dirais que c'est un manga comme on n'en ferait plus du tout aujourd'hui, dans le sens où le rythme, la narration, autant de dialogues, plus rien ne serait fait de cette manière là aujourd'hui sur un manga moderne, et pourtant c'est vraiment une pure série d'action patate dans la tronche, bien teintée de SF. Ça va vite, il y a énormément d'action dans ces premiers volumes. On ne sait même pas trop à quoi s'attendre à la fin de ce volume double. On ne sait même pas où on va. Le héros, le personnage principal, à part survivre, il n'a pas vraiment d'objectif. Et pourtant, je ne sais pas, il y a une vibe bien old school. Et je me dis que c'est précieux parce qu'on n'aurait plus le temps de laisser un auteur s'amuser ou se perdre, on peut le voir de façon différente, comme ça aujourd'hui.
C'est sûrement l'une des choses qui m'a vraiment le plus sauté à la gueule pendant la lecture. C'est bon, alors on l'a déjà dit, le design il est rétro, mais moi à la limite ça me déplaît pas, ça correspond aussi à ma tranche d'âge de lecteur. Moi j'ai toujours un peu de mal avec le trait très très gras quand il est rétro comme ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que commence la première baston, et la première baston elle démarre assez tôt, là le titre il prend tout de suite une autre ampleur, vraiment au niveau du cadrage, du découpage, de la fluidité. C'est assez impressionnant parce que du coup je me suis tout de suite dit, en fait il passe moins de temps sur les scènes un peu quotidiennes et compagnie. Par contre il a vraiment décidé de s'arrêter sur les bastons, et c'est hyper important parce que évidemment des bastons de personnages qui ont des bras monstrueux ou autres, mais tu peux très vite surcharger le cadrage, très vite en faire trop, ne plus être lisible, alors que là je trouve qu'il s'attache vraiment à ce que le manga soit toujours lisible et tu comprends ce qui se passe malgré le trait comme je dis qui est un petit peu gras parfois.
Ouais, c'est vrai que le dessin est assez old school, je veux pas revenir dessus, mais dans mon souvenir, sachez que je trouvais ça beaucoup plus moche, et que là, quand j'ai lu les doubles pages, franchement, par rapport à le PDF que j'ai lu là, la semaine dernière, c'était 10 fois plus beau que mes tomes reliés que j'avais lu à l'époque. Hein. En fait, le truc, c'est surtout les dialogues. Les dialogues, c'est tu sens que t'es dans un vieux manga. Déjà, quand t'as le héros qui te dit « Je me suis blessé au bras. Ah, mais ça s'est recousu tout seul. » Et tout le monde fait « Ah ouais ? Oh, c'est bizarre. » Et il fait « Bah ouais, heureusement, hein, sinon j'aurais pu être un monstre. » Je fais, mais t'es déjà un monstre, mec, ta blessure est déjà revenue. Ou alors le faux Wolverine qui annonce déjà dès le départ, en fait, vous n'êtes plus que 4 armes, hein, alors il faut les chercher. Donc je fais, mais pourquoi tu dis tout? On n'est même pas à 100 pages. Jamais t'aurais ça dans un manga aujourd'hui. Et en vrai, c'est assez fun parce que je me suis dit, honnêtement, par rapport à la nostalgie que j'en avais, je me suis dit, ah ouais, en 2026, ça passerait pas. Je pense qu'un truc comme ça, c'est ce que t'as dit, Maxime.
On se foutrait la gueule de l'auteur.
C'est pas ça, mais c'est qu'au final, il met une mise en scène. Et finalement, on y pense, mais il était aussi dans un périodique. Donc, il voulait donner envie aussi au lecteur. Donc, c'est pour ça qu'il sort dès le départ le plus ou moins le fil rouge. Il n'est pas tout seul, il en trouve d'autres. Et c'est vrai que c'est un peu maladroit.
Ouais, mais puis un personnage archétypé comme Klo, finalement, c'est quand même assez pratique parce que tu peux bien lui faire mal, tu peux le faire souffrir. Parce qu'en même temps, c'est un gros bâtard. Donc, les mecs passent leur temps à dire eh, moi, quand j'étais sur un terrain, quand je faisais la guerre.
C'est les méchants des vieux mangas, quoi, qui sont un peu débilos. Heureusement qu'il y a les petits gamins, là, les génies qui arrivent. Mais tu vois, le faux Wolverine avec ses trois griffes, il m'a fait rire. Il m'a fait trop rire.
Alors, on n'arrête pas de parler du design rétro et compagnie. Je veux pas non plus effrayer les lecteurs parce que je trouve que ça fait partie de ces titres quand tu les découvres plus tard, comme c'est mon cas, où en fait tu vois la force du dessin de l'auteur, donc comme je l'ai dit déjà dans les cadrages, le découpage, mais tu les vois aussi dans des petits détails du dessin, en fait, où il y a vraiment plein de fois où je me suis surpris à me dire « Ah, le regard est vraiment beau, là !» Et je trouve que le manga, il évolue, même dans ce tome 1 double, ça évolue beaucoup. Déjà, entre le premier chapitre et le dernier chapitre, tu vois qu'il y a déjà une différence. En fait, ça m'a fait un peu penser à ma lecture de Crows, où j'ai lu le tome 1, et direct, même si le trait, bah, c'est exactement les mêmes problèmes, hein, très gras, très rétro, qui peut être un peu un repoussoir. Mais par contre, sur un visage, sur une expression, c'est vraiment sur des micro-détails, tu vois déjà le talent de l'auteur et tu vois que ça va devenir un grand, tu vois, dans tous les cas. Bah, j'ai ressenti ça dans Arms, genre, ah, ça, tu l'as fait vachement bien, cette expression, et c'est pas donné à tout le monde de réussir vraiment un beau regard, ou quand je parle de beau regard, je pense, ça va être un peu compliqué, des regards un peu à la Inoue, tu vois, qui sont très humains, qui te font croire à l'humanité, et que ce n'est pas juste un personnage, mais que cette personne, tu pourrais la croiser dans la rue. Je trouve qu'il a ça, et qu'il faut pas l'oublier sur la personnification, parce que même si je suis d'accord que la mise en place des personnages et compagnie, elle est un peu à la va-vite. De l'autre côté, je trouve que ça compense avec ces dessins de visage qui sont parfois vraiment très jolis et très précis.
Et c'est pas tant sur les visages que moi je me suis arrêté sur cette relecture, c'est sur tout ce qui concerne les mouvements et même les courses des personnages, même la façon dont ils se déplacent dans les cases. Même en dehors des bastons, j'ai cherché comment le définir. Je me suis dit, mais comment je peux expliquer ça? Et je me suis dit, il a un don cinétique du dessin en mouvement. Cinétique, c'est le mouvement de la matière. Mais on est sur une lecture, on n'a pas de matière. On n'a rien à toucher, on voit rien. Et pourtant, j'avais ce sentiment-là. Je vois vraiment, c'est le bras de Rio qui s'allonge.
J'ai eu à peu près la même sensation avec les jambes de l'autre Arms. Les premières fois qu'il saute, il y a vraiment un côté très vivant de j'ai compris ce qu'il a fait avec ses jambes, et ça marchait très bien pour le coup. Et d'ailleurs, maintenant que je me souviens, c'était un petit peu ce qu'on avait dit avec la réédition de Spriggan. Vous parliez du côté très brut de l'introduction du manga. Moi, j'avoue que Spriggan m'avait donné déjà cette sensation. J'adore voir comment les auteurs de l'époque, tu sais, ils prenaient vraiment pas le temps de faire des introductions. Tout est expliqué en deux dialogues. Et bam, on passe à l'action parce que c'est ça qu'on veut. Comme tu dis, Lenny, il y a des incohérences vraiment où tu dis, c'est vraiment pour faire accélérer le récit.
De dialogue concept, hein. Parce que dans Spriggan, c'est super, il y a des artefacts, il y avait une autre humanité avant, ils nous ont laissé un message pour l'avenir, ne faites pas comme nous, vous butez pas, et ben on se bute.
La pilule est peut-être plus dure à passer dans Spriggan que dans celui-ci, mais c'est vrai qu'il y a des incohérences de scénario, c'est pas comme si le scénariste avait loupé ça.
Sachant que c'est pas le même scénario sur les deux, c'est que le même dessinateur. Hein.
Oui, en plus...
Mais c'est pas la même époque, c'est...
Non, mais je tenais pas à en faire une comparaison formelle de ces deux titres, c'est les mêmes. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais le même sentiment de cette entrée en matière très orientée dans l'action et pas forcément dans la crédibilité de ton univers, comme beaucoup d'auteurs s'attardent énormément maintenant à la crédibilité ultime de leur univers. Là, j'aime bien ce côté un peu « Non, mais vas-y, venez, on rentre, on rentre dedans, quoi. »
Moi, j'étais fan de Schwarzenegger quand j'étais petit et de tous ces films effets spéciaux, grand public.
Last Action Hero,
Running Man, etc. Et c'était pas la cohérence scénaristique qui faisait briller ces films-là. Hein. Et pourtant, j'étais ultra fan et je suis fan de Spriggan et je suis fan de Arms. C'est la même école pour moi, finalement, cette période de cette époque culturelle, cette époque pop culturelle. Et ce qui m'a surpris...
Qui est très semblable au final au cinéma d'action que tu viens de définir, où tu sens que les inspirations elles viennent du Hollywood aussi, tu vois, où on va vraiment avancer sur les gros guns, sur les gros concepts et tout. Et c'est intéressant qu'il y ait une même ambiance, on va dire, entre les mangas et les films.
Mais par rapport à Spriggan, j'avais pas souvenir que Arms c'était quand même aussi bavard. Ça fait trois fois, je crois, qu'on le dit depuis le début de l'émission, qu'on est sur du pavé qui prend du temps, mais qu'est-ce qu'ils parlent ? Ils ont toujours des trucs à se dire, tout le temps, même quand ils se battent. Ça ouais. n'arrête pas, ça, soit ça vanne, soit ça se donne des infos.
Yato, il est vénère, ça c'est sûr. Peu importe ce que tu vas dire, il va vouloir te défoncer.
C'est clair.
C'est un peu cagnard. Mais après, c'est aussi parce qu'il y a, beaucoup
Pardon.
De thèmes...
laisse tes bras, montre tes bras.
Non, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. On en a parlé un peu, c'est l'évolution du corps, l'évolution humaine, la monstruosité, parce qu'avoir un arms qui n'est pas très beau, hein, c'est pas un super arms avec une belle épée. On est dans un truc un peu monstrueux. Qu'est-ce que c'est être différent ? Bref, c'est des thèmes qui sont assez cultes aujourd'hui, mais finalement, pour l'époque, c'était assez en avance hein, pour son temps. Et il ne peut pas battre Tezuka, bien sûr, qui reste le Prime Minister. Mais ça reste une grande inspiration. Et d'ailleurs, c'est le manga un peu précurseur dans ces thèmes, avant l'attaque des Titans, avant Tokyo Ghoul, on en parlera plus tard. Mais moi, j'ai trouvé ça fou qu'il y ait autant de thèmes abordés.
Parfois, peut-être trop de thèmes abordés, parce que au final, je me dis que c'est un peu le seul élément que je trouve qui a été un peu laissé à l'abandon. Alors, je précise vraiment sur ce tome 1. J'imagine que dans le reste, le scénar est beaucoup plus développé. Mais on va dire, c'est le background général. Je trouve qu'il est un peu vague. Alors, tu l'as pour les persos. Comme vous dites, ils sont définis de manière assez caricaturale, ce qui fait qu'on peut aller vite sur la définition des persos. Mais par contre, tu comprends pas trop les tenants, les aboutissants des différentes parties. Ils sont coursés par une organisation mondiale, mais tu sais, qui recherche les arms, mais en même temps qui embauche les arms eux-mêmes. Donc on s'arrête très peu dessus dans ce premier tome sur le background. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a un petit peu manqué, un peu de tenant et d'aboutissant, quoi.
Bah, on est comme eux, on comprend rien à ce qui se passe dans cette organisation.
Ouais, mais ils le vivent mieux que nous.
Mais ils le vivent, oui, parce qu'ils ont des arms. Et Ren non plus, hein, il savait rien, il captait rien de ce qui se passait.
Ren est le perso qui ne comprend vraiment rien. Sauf à la fin.
Mais c'est vrai que c'est long ce début de manga, pas long dans le sens négatif, on s'ennuie, non, long dans le sens où en effet, on n'a pas les motivations. Et c'est ce que je disais au début, ce manga serait plus fait comme ça aujourd'hui. On te placerait une autre motivation, on te placerait ce personnage de Kazumi plus vite, où il lui arriverait un truc plus grave encore au début du manga, ou tu vois
après,
ce que je veux dire ?
Je sais pas, parce que justement, quand tu prends Mad, par exemple, dont on a parlé dans une des précédentes émissions, je trouve qu'il a ce côté abrupt aussi, où on te donne pas forcément tout le contexte, et je crois que c'est ce que j'avais dit après le tome 1, c'était contexte, s'il vous plaît, contexte, parce que je comprends pas bien l'univers dans lequel on est, donc il serait peut-être pas fait exactement de cette même manière. Je pense que, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de déchets dans le récit sur les blagues de fanservice, quoi. Genre, il va se prendre une patate sur la tête, l'autre il va dire qu'il veut casser la gueule à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de déchets là-dedans, que ça, typiquement, c'est un truc qu'on referait pas maintenant, tu vois, où on dirait dose un petit peu ton humour, c'est trop là. C'est...
Surtout que Rio a été laissé par sa famille qui est partie en vacances en avion. Dans Maman, j'ai raté l'avion, tellement il fait des pièges à tous les ennemis, je sais pas si vous voyez, au début il se retrouve dans la forêt et il fait que des pièges, comme dans Maman j'ai raté l'avion.
C'est vrai qu'on a oublié que c'était un survivaliste.
Mais c'est parce que son père lui a appris, et à un moment il se posait la question en disant peut-être qu'il m'avait prévu ça. Bah oui mec, tu vas bien le découvrir.
Moi j'étais toujours en modèle Captain Tsubasa, le daron il est parti, voilà, comme d'hab.
Moi j'avais peur de cet effet de nostalgie justement, mais vers la fin du tome double, quand le bras de Takatsuki, là, le héros, se transforme en gros fusil à boulet de canon, je me suis souvenu de la suite parce que je sais ce qui va se passer avec son bras et de sa future transformation, et j'avais un bon souvenir de cette histoire. Et au début, j'attendais de relire la suite. À la base, je vous racontais tout ce que je pense, mais je voulais attendre de relire la suite pour savoir si est-ce que c'était l'effet nostalgie ou est-ce qu'aujourd'hui c'est nul. Et en fait, j'aurais pas été sûr de la réponse que je vais vous donner si j'avais pas eu ce souvenir. Parce qu'en vrai, c'est trop bien. J'ai eu une réminiscence des moments où j'étais tellement happé de lire ce manga, que j'étais en amphi quand je le lisais en 2006, et franchement j'ai rien suivi des cours tellement le manga était trop bien. Moi j'ai découvert Arms il y a 20 ans, donc je suis un vrai gars qui attendait la fin de la série en 2006, et j'ai tout lu et je me souviens très bien où j'étais, sauf les deux derniers tomes de Maxime qui m'a tout cassé. Mais je me suis dit je lis un vrai manga d'adulte, c'est fini là, ces shonen de merde, Shaman King, Naruto.
C'était alors, ton titre Passation, genre là je suis passé au seinen,
Tellement que je pensais que c'était un seinen alors que non, c'était un shonen, je me suis carrément planté.
Dark Kana peut-être ?
Je sais
même
non,
pas.
Je savais que c'était pas Dark Kana à l'époque. Hein. Je suis
Donc oui, non, rien, c'est juste un
non,
shonen.
Mais, c'était tellement sombre que pour moi, c'était évident que c'était un seinen, alors que pas du tout. C'était juste un shonen sombre et qui était trop bien.
Et donc c'est bien une faute de frappe hein, que j'avais, c'est bien vente de tomes.
Ah merci,
de...
ok.
Quête officiellement terminée.
Non parce que sinon là, première édition ça va être compliqué.
Non, je sais pas comment je me suis retrouvé comme ça avec 24 tomes. Bon, on reparle de Arms un petit peu plus loin dans cette émission, je vous propose un petit interlude maintenant. Et dans cet interlude, je voulais qu'on parle un instant des bras dans les contes, dans la mythologie, parce que je me suis dit que ça pouvait pas venir de nulle part, cette passion qu'on a dans la pop culture pour les bras qui se transforment en armes. Alors oui, évidemment, dès l'enfance, on trouve ça trop cool. Mais du coup, il y a des années et des années et des années, des centaines d'années, d'autres gens devaient trouver ça trop cool avant même l'existence des armes à feu. ils devaient imaginer autre chose à la place de leurs bras. Et effectivement, oui, dans la mythologie celtique irlandaise, on a Nuada au bras d'argent. Nuada, il perd un bras au combat pendant une grande bataille et du coup, il ne peut plus être roi parce que dans la culture celtique, un roi, ça doit être physiquement complet pour régner, sinon ça ne règne pas.
Physiquement complet.
Logique, logique.
On lui forge alors un bras d'argent magique. Et c'est pas juste une prothèse que des dieux artisans lui ont fabriqué. Hein. Le bras fonctionne vraiment comme un vrai membre. Il bouge, il agit, voilà, c'est ça. Il fait partie, ça fait partie de lui. Et donc, on est presque face à une sorte de cyborg mythologique bien avant la science-fiction. Et plus tard, un autre personnage a même réussi à lui faire repousser un vrai bras vivant. Et Nuada récupère donc son trône, mais son histoire reste tragique puisqu'il finit par mourir dans une autre bataille. Et la symbolique du bras, on va la retrouver dans d'autres mythes. Et autant que dans la pop culture aujourd'hui, il y en a dans toutes les mythologies. On la retrouve avec un autre dieu qui s'appelle Tyr. On parlait de Vinland Saga la semaine dernière, donc j'ai regardé le côté nordique. Eh bien, Tyr, T-Y-R, ça doit se dire Tyr. Et lui montre sa valeur héroïque en sacrifiant sa main dans la gueule du loup Fenrir pour gagner sa confiance et pouvoir l'enchaîner. Il est ensuite connu comme le dieu manchot. Et là, à l'inverse de Nuada, il a ce qui est appelé une mutilation qualifiante qu'on retrouve dans beaucoup de héros et dans beaucoup de cultures. Odin, lui, par exemple, il a sacrifié un œil pour mieux voir, par exemple. Et donc, voilà, la mutilation qualifiante, c'est un sacrifice qui est glorifié, contrairement à Nuada. Et un peu comme dans Arms, puisque les Arms n'ont pas eu de pouvoir décisionnel là-dessus, on voit dans ce tome 1 qu'ils ont tous sacrifié un membre qui est ensuite remplacé par des Arms. On ne sait pas encore comment pour le personnage principal, pour les deux personnages, si pour le deuxième on le sait pour Hayato. Bourillo, on ne sait pas encore comment il s'est retrouvé comme ça, mais voilà. Tout ça pour dire que tout se rejoint et que finalement cette passion pour les bras, ce nouveau sous-genre hein, de manga de bras, ce n'est pas nouveau du tout. Les histoires de bras, ça date depuis la nuit des temps.
Ah, je pense que tout ce qui concerne les transformations du corps et tout, évidemment, on en a maintenant dans la pop culture, on en a dans le manga, mais on en a eu très souvent, énormément. Je pense que c'est un peu une espèce de fantasme nerdo-geek, tu vois, qui vient, je pense, en partie du cinéma d'horreur aussi. Tu vois, je pense à Evil Dead avec Ash et sa tronçonneuse à la main. Je pense à tout un pan du cinéma japonais où c'est une meuf avec une mitraillette à la place de la jambe, ou tu vois des dérives comme ça du corps. Je pense qu'on peut le rapprocher beaucoup du cinéma body horror, par exemple, où c'est justement la déformation des corps. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est plus la déformation des corps, mais qui vont te permettre d'acquérir une puissance supérieure, à la différence dans les contes et mythologies où c'était des dieux. Là, au contraire, on va plus questionner ton humanité et savoir, en ayant ça, est-ce que tu peux encore être considéré comme un être humain.
Et on en revient finalement à cette idée de mutilation qualifiante qui va permettre d'améliorer le corps, là en l'occurrence en combat, puisqu'on parle de manga d'action. Et d'ailleurs, on va se faire quelques mangas comme ça où il y a des histoires de bras, cette fameuse sous-catégorie manga de bras. Et dedans, on est évidemment tenté de mettre Digreman. Dans Digreman, le monde est peuplé d'entités maléfiques issues d'expériences du conte millénaire. Seule une lignée d'exorcistes semble être en mesure de les combattre. Alan Walker en fait partie, mais ses pouvoirs trahissent aussi un terrible secret. Sa main gauche. Est-ce que sa main gauche a un lien avec le conte? On ne sait pas. Si, on sait.
Eh ben si. Mais c'est vrai que ce résumé, en fait, si tu lis pas le manga, ça veut pas dire grand-chose. C'est fou. Parce que moi, tu m'as pas donné envie avec ce résumé. Et
alors
que
le but des résumés était pas. C'est pas l'objectif de donner envie. Le
but du résumé, c'est de donner envie. Non, je parle de pitch en général. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas ça du tout ça, Digreman. Moi, Digreman, j'ai vraiment ce souvenir le même que Arms. C'est un des mangas shonen que j'ai lu. J'ai fait, putain, mais c'est sombre. Est-ce que j'ai vraiment l'âge pour lire Digreman? Et surtout, j'ai lu et j'ai vu Et en anime, je pense que c'est pire parce que t'es tout le temps dans le noir permanent. Il n'y a pas de lumière. Y a pas
oui,
de,
mais t'avais
y a
bien
pas
l'âge.
De soleil. Mais je suis pas sûr. Je suis né en 94. Bras gauche, ouais, le bras gauche maudit d'Alan Walker. Bon, en vrai, c'est le pendant du conte millénaire. Mais c'est la même chose. C'est, toi, c'est une arme, c'est une malédiction. C'est du coup un symbole de différence parce qu'il n'est pas comme les autres. Et clairement, pour moi, à l'époque, je me suis dit, bah, c'est très dark et au final, c'est trop bien, comme Arms.
Moi, dans mon cas, Dick Grayman, ça a été aussi un manga de passation, mais de passation de shonen à shonen un peu plus sombre. J'avais déjà fait une première passation seinen un petit peu comme toi, sauf que moi, j'avais lu Gantz, et vraiment, ça m'avait choqué de ouf. Et tu sais, j'avais reposé le manga en mode genre, trop tôt, c'est pas pour moi.
Oui, mais il y a encore une histoire d'armes au point sur Gantz.
C'est vrai qu'il y a encore une histoire. Et du coup, Dick Grayman, pour moi, il représente cette entrée du shonen, mais du shonen gothique. Du shonen triste comme le dit Joe, il y a un truc que je trouve très poétique dans Dick Grayman, c'est que Allen il porte vraiment les stigmates de la malédiction du conte, et c'est vraiment un truc qui traîne pendant toute la série, et pour moi c'est un peu comme sa pénitence qui trimballe pendant tout le récit, parce que à la base ça démarre parce que bah, il a passé un pacte avec le conte. Et c'est comme ça que finalement, bah, sa vie va être maudite pour tout le reste. En plus, ça a l'aspect très religieux. C'est vraiment un exorciste. Là, on parle de Dieu, on parle de démons. C'est un titre qui a un ton qui est vraiment très particulier. Et je trouve que ça donne une autre tonalité au rôle du prêtre exorciste. C'est-à-dire que Allen, lui, il a vraiment ce truc où voilà, il doit aller. Toutes les histoires sont tragiques, sont dramatiques, parce que c'est toujours des histoires qui parlent de l'être humain qui a fauté, qui a passé un pacte avec le conte, qui va se transformer en Akuma derrière. Et donc, à travers chaque histoire, t'as des destins, mais qui sont vraiment tragiques de fou. Et il y avait pour moi la première fois que j'ai senti ce côté désespoir dans un titre. Désespoir dans le sens où je ne vois pas comment les gentils peuvent gagner, mais du tout. Sentiment que j'avais déjà eu à l'époque de l'Attaque des Titans, quand je l'avais lu, et que je trouve qu'il y a une grande force du manga, c'est qu'il n'y a aucun monde où tu te dis « ça va se finir bien ». Dans Dick Grayman, ils s'en prennent plein la gueule, mais tout le temps, il y a énormément de morts, et donc c'était un peu la passation avec ce truc du bras qui transcende la puissance du héros, et grâce à son bras, il permet de tuer les Akuma, mais tuer les Akuma, ça veut aussi dire tuer les êtres humains.
Voilà, mais on y vient. C'est ça où il y a un rôle du bras qui est vraiment central aussi dans ce manga.
Les tuer ou les sauver, quoi.
Et dans un sens, en y réfléchissant, je trouve que c'est un peu comparable au bras d'Edward dans Fullmetal Alchemist. On ne l'a pas mis spécialement dans cette sélection, mais je trouvais que c'était important de l'évoquer, parce que je trouve qu'entre Edward et Allen, il y a vraiment une grosse ressemblance sur ce côté pénitence. Tous les deux ont fait une connerie, tous les deux ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, et ils vont passer quasiment tout le récit à essayer de soigner le mal qu'ils ont eux-mêmes créé. Et du coup, je trouve qu'il y a une comparaison sympathique à faire, dans le sens où si Dick Grayman représente cet aspect bras organique du côté fantastique, Fullmetal Alchemist, lui, il le représente plus du côté steampunk, en fait, même s'il y a de la magie hein, dans Fullmetal aussi. Mais je trouvais ça intéressant d'opposer bras organique de Allen et bras mécanique de Fullmetal Alchemist, sachant que c'est deux titres qui sont sortis à 2 ou 3 ans d'intervalle. Et je pense qu'on commençait déjà à rentrer dans ces phases de manga plus sombres. Et Fullmetal et Dick Grayman sont deux très bons représentants de shonen, mais qui vont être très matures dès le début, en fait.
Et Dick Grayman, c'est son bras gauche. Et Edward, c'est son bras droit.
Bah, c'est
Est-ce
parfait.
Que c'est un chacun.
Sachez que si vous avez commencé Dick Grayman à sa sortie il y a 20 ans, en 2006, il y a le tome 29 qui paraît au mois de juillet. Donc vous pouvez reprendre le train en marche.
Merci Oshino. Oshino
Katsura, l'autrice de ce manga. Et donc vous pouvez reprendre le train en marche et sauter sur Dick Grayman, qui est, donc continue d'être publié aujourd'hui, lentement mais sûrement.
Il faudrait un nouvel animé. Hein. Il faudrait vraiment un nouvel animé pour les épisodes.
Il faut qu'ils aillent jusqu'à la vraie fin, du coup.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Autre manga maintenant s'appelle Parasite. Parasite, on en a déjà parlé puisqu'on a fait une émission entière au sujet de ce titre, cet excellent titre. Des parasites extraterrestres débarquent sur Terre. Rapidement, ils prennent possession du cerveau de certains habitants. Et quand ça arrive autour de Shinichi, il y a un bug. Oh non, ça marche pas. Son cerveau est épargné. Et Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit. Les deux vont donc apprendre chacun l'un de l'autre pour pouvoir survivre. Et Shinichi se découvre alors des nouvelles facultés physiques. Ça tombe bien, parce que ça va l'aider à défendre la planète Terre.
Bah moi, je trouve que c'est sûrement le manga qui se rapproche le plus d'Arms, dans sa forme en tout cas. Le parasite vit littéralement dans le bras droit du héros, c'est un peu son coloc, c'est aussi une arme, il l'aide, mais ça reste un monstre. Et du coup, c'est le corps humain qui est plus tout à fait humain, ce qu'on voit souvent dans Arms. Et Parasite, bon, bah, on a déjà fait une émission, donc je vais pas déballer.
Et c'est vrai que là, on est plus dans le cadre d'une coloc, d'une cohabitation, comme tu dis, voire limite, s'il doit le rapprocher de l'horreur, j'irais plus du côté d'un film de possession, où tu vois, le héros est vraiment possédé par une entité extérieure. Et ce qui est évidemment intéressant dans le cas de Parasite, c'est que tu vas vraiment avoir un inversement entre le héros et l'extraterrestre, c'est-à-dire que le héros va commencer à voir ses congénères humains de plus en plus comme du bétail, là où l'extraterrestre va essayer de comprendre de mieux en mieux l'intelligence humaine et comment ils peuvent faire pour survivre en fait tout simplement sur Terre. Donc c'est encore une autre utilisation du bras déformé.
Ouais, puis son bras, il peut lui parler, c'est Miggy, il peut faire des blagues, Miggy.
Oui, Miggy a
une
conscience.
Dans Arms, il fait pas de blagues, le bras.
Pas encore. Mais on sent que ça reste un truc un peu vivant, un peu organique, genre il lui comprend quand il dit extension et s'étend. Ouais, il le protège. Donc, attendons.
Et à l'inverse de Arms, où je trouve qu'on est quand même sur de l'utilisation très très bourrine des bras déformés, je trouve qu'au contraire, Parasite, il a très rapidement une utilisation beaucoup plus fine. Ça peut le parasite peut être utilisé pour faire des trucs très méticuleux, justement hacker des choses, où là pour le moment dans Arms on est dans le bon gros
on peut hacker en défonçant un bâtiment.
Exactement, et ça marche tout aussi
bien.
Un gros
boulet de canon, tu t'y attendais pas. Hein.
Autre manga, alors on va vraiment faire bref dessus, puisqu'il est introuvable aujourd'hui, ou alors de manière très très compliquée, c'est World Embryo, qui était sorti aux
éditions. Pas dans les mangas oubliés.
Asuka. Ah non, il est oublié, que même les gens qui l'ont oublié qu'il l'avait. World Embryo, qui était sorti donc aux éditions Asuka, à la fin était publié par Kaze, qui était devenu ensuite Crunchyroll. Kaze, vous connaissez toute l'histoire. Bref, World Embryo, on est avec Riku, et un jour il reçoit des nouvelles d'Amané, qui est censée être morte, et il se retrouve embarqué dans une histoire totalement fantastique, et il va devoir protéger une sorte d'Amané face à des monstres et des Kanchu, et pour ça il se voit doté d'un Jinki. Un Jinki, c'est un truc mi-bras, mi-arme.
C'est vrai que le contexte est un peu différent, parce que bon, là on est plus dans la technologie, le futur, les thèmes similaires d'identité, ça y a pas de souci, la mutation slash contamination. Après, c'est pas vraiment des super pouvoirs cool comme dans Arms, on est plutôt dans des super pouvoirs qui sont douloureux, quoi, qui
ouais,
est la peur.
Ils sont graphiquement stylés, tu vois ce que je veux dire.
Oui,
c'est à dire
vois.
Que chacun a une arme qui le définit.
Oui, ça donne envie.
Comme une armure, comme comme un Sentai, comme ce genre de truc, tu vois. Il y a un truc assez classique comme ça.
Bah c'est clair que les jambes dans Arms, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros monstre de Resident Evil 2 avec Nemesis, et tu fais j'ai pas envie de sortir avec ça sur mes jambes, hein, mais vas-y.
Non, puis là en plus le bras il se transforme, mais donc ça reste une sorte de bras, et ça te va te procurer une arme, alors chacun a sa façon, à son jinky particulier, mais voilà. Et je sais pas si tu te souviens, mais le personnage principal, il a un côté un peu Negi dans Nekima.
Si, parce que j'ai vu la couverture, j'ai fait vous avez 5 ans, enfin qu'est-ce qui s'est passé.
Et quand il se transforme avec son jinky, il devient super furieux avec les cheveux gris et tout.
Ouais. Ah, c'était sympa.
Voilà, World Embryo. Bon, c'est introuvable, donc voilà, on l'a
mais
cité
pour.
Pour
votre culture, c'est important.
Pour le plaisir d'en parler.
C'est un petit ciao l'artiste. Bonne route.
C'est ça.
Après, on ne sait pas, il peut revenir. Hein.
J'ai
peut
mis des
vite,
années hein. à boucler ma collection, il me manquait deux tomes.
Mais toi, Mangetsu, hein, ils vont réussir, ils vont les ressortir.
Oh, je ne suis pas sur World Embryo. Ça m'étonnerait. Dororo a été réédité. Là, on est avec The Master of the Master, hein, Dororo de Tezuka. On est donc durant l'époque Sengoku, plus ou moins le 16e siècle, je résume très fortement. Et donc, Yakimaru, un jeune homme, a vu 48 parties de son corps offertes à 48 démons au moment de sa naissance. C'est pas pratique. Son père a en effet conclu un pacte avec eux afin d'acquérir des pouvoirs, et il abandonne aussitôt son fils, qui est ensuite élevé par un médecin, et ce médecin va remplacer les parties manquantes du corps de Yakimaru par des prothèses, dont certaines s'avèrent être des armes, comme ses faux bras qui cachent des sabres. On arrive, manga de bras. Comme la vue, oui aussi, puis d'autres sens qui lui ont été dérobés, le jeune homme donc développe des sens surnaturels qui lui permettent de se défendre face aux démons, et à chaque fois qu'il bat un démon, il récupère une des parties manquantes de son corps, et il fait alors la rencontre au milieu de tout ça de Dororo, qui va le suivre qui va le suivre à travers tout le Japon. Là, c'est le pas de bras, pas de chocolat originel. Pour moi, c'est voilà, dans
le tronc.
C'est le manga de bras de base. C'est le manga de bras à lire quand on est fan de manga de bras.
Mais c'est vrai que c'est assez bizarre en plus parce que chaque prothèse, enfin pas chaque prothèse, mais la plupart des prothèses sont des armes. Et paradoxalement, c'est chaud parce qu'il récupère son humanité. Plus il récupère son humanité, plus il perd certaines capacités de combat. Du coup, tu fais « Ah, je suis plus humain, mais en fait, je suis plus nul. Donc, est-ce que je vais finir le combat ? Est-ce que je vais finir le manga ? Je sais pas. »
Et le sens du sacrifice, ouais. Même s'il a encore, c'est pas lui qui a choisi, mais ça reboucle avec le pacte d'Andy Greyman.
Comment il a fait Tezuka ? Il était quand même fort.
Je pense que Dororo, ça a inspiré quasiment tous les mangas dont on parle là depuis le début de cette émission.
C'est pour ça que je me dis Tezuka. Enfin, sans Tezuka, on aurait plus de manga vraiment zéro, de rien du tout. Quoi.
Bon, on aurait d'autres mangas.
Bah, on aurait quoi ? Petit Poney ?
Non, d'autres personnes auraient eu des super idées qui auraient été novatrices à cette époque-là.
Ça aurait peut-être juste été partagé entre plus de personnes. Non, lui, il a tout gardé Tezuka. Pour lui. Il a tout trouvé.
Tezuka the Master.
Parlons maintenant de Hajin. Renversé par un camion, Kai meurt. Voilà, fin de l'histoire. Et il ressuscite immédiatement.
Pas un isekai.
Non, c'est pas un isekai. Une étrange organisation tente de le capturer juste après qu'il renaît, entre guillemets, qu'il ressuscite. Et afin de tout ça, pour mener des expériences sur lui, rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul à être un Hajin et que personne ne sait exactement comment, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là. Mais le gouvernement est prêt à tout pour le découvrir et pour en savoir plus sur ces êtres immortel. Hajin, Arms, petite proximité.
Alors Hajin rentre dans la compétition, même s'il ne s'agit pas vraiment de bras à proprement parler. Mais je trouve qu'on a quand même cette idée d'émanation que tu contrôles, qui parfois est incontrôlable aussi, quand tu es au début de l'histoire surtout. Et je trouve qu'il a vraiment sa place dedans, sachant que en lisant le tome 1 de Arms, au niveau de l'ambiance, moi c'est vraiment à Hajin que j'ai pensé tout de suite, surtout pour le côté militaire et le côté combat très organisé, organisation criminelle, je pense, qui va courir. Et puis, il faut garder en tête que Arms, ça va beaucoup être un manga de fuite, et Hajin, c'est un manga de fuite aussi. C'est juste que plus tu avances dans l'histoire et plus tu vas avoir de poursuivants. Après, ça va être le gouvernement, après, ça va être d'autres Hajin ou d'autres Arms. Donc, je trouve qu'il y a le manga de fuite est un vrai genre, je pense. Et du coup, je trouve qu'il se rejoint.
Enfin, moins que le manga de bras.
Peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a. Moi, j'y ai vu un rapprochement, et puis dès que je peux, je parle de Hajin de toute façon.
Non, mais j'ai eu le même sentiment, mais vraiment par rapport à ce côté fuite, ou même l'objectif des personnages principaux au début des œuvres. On sait pas, juste faut survivre, faut pas se faire flinguer, capturer pour être testé ou je ne sais pas. D'ailleurs, on sait pas au début dans Arms pourquoi Grégor veut le.
Ah, mais non,
le capturer.
On sait rien du tout, on sait juste qu'il y a Case qui existe. Et même lui, il ne sait même pas qu'il existe, a priori, vu qu'il a fait un truc dans un village, mais il ne s'en rappelle pas. Mais je ne vais pas vous spoiler, parce qu'il y a une grande histoire par rapport à ça. Mais je ne suis pas trop d'accord avec vous pour Hajin. Mais après, je vois certains points communs. Je ne vais pas dire le contraire. Les IBM, les Hajin, tu vois, ce n'est pas non plus la méga espèce intelligente. Donc pour moi, ils sont dirigés par les humains qui sont immortels et qui les contrôlent en donnant des ordres. Tu vois, c'est pas comme le bras. Mais
mais ça, c'est faux, parce que s'il avait eu le temps de faire beaucoup plus de tomes dans Hajin, on voyait qu'il y avait déjà des émanations qui commençaient à devenir autonomes.
Sûr. Mais la grosse différence,
et
pour
ouais,
moi...
je suis un gros geek de Hajin.
Pour moi, la grosse différence, c'est le ton philosophique du manga Arms. Arms est plus shonen SF, avec une montée un peu héroïque quand même. Là où Hajin, c'est quand même c'est assez froid et nihiliste, et Kai Nagai dans Hajin, excuse-moi, mais il est moralement ambigu.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Par rapport à Arms.
Je suis d'accord avec toi que les deux personnages sont un peu aux antipodes, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un expédient de caractère dans Arms, il a juste un caractère, il est un personnage de shonen. Ouais. C'est ça, son rôle, fonction. Là où dans Hajin, le personnage est beaucoup plus creusé, oui, t'as raison.
Alors moi, j'adore Hajin, donc je vais pas dire non plus. Hein.
On en avait plein d'autres, des mangas. On a mis Jujutsu Kaisen, on a mis Akira, Otogi Matsuri, ça marche aussi, Full Metal Alchemist.
Bah, il y a Berserk hein, avec son bras aussi. Hein.
Tokyo Ghoul également, on peut le rapprocher de Arms d'une certaine manière. Non, il y en avait plein en fait, des mangas qu'on peut
parallèle.
Qu'on peut rapprocher. Et cette histoire de bras, finalement, qui intervient beaucoup, quoi. Et même des doigts, du coup, pour Jujutsu Kaisen, par exemple.
Ouais, les bras, les doigts, on les mange, c'est pareil.
le bras organique, pour moi, c'est quand même celui de Tetsuo. Hein. S'il y en avait un seul, ça serait vraiment... tu sais, c'est une image rémanente que j'ai, alors de l'anime, hein, de l'anime Akira, mais pour moi, c'est un peu, ouais, le premier bras original où j'ai vu un truc où là, on est vraiment dans le full body horror à fond. Et vu que c'est une de mes premières interactions avec le body horror, je crois que c'est celui que je garderai en tête toute ma vie.
Bah, pour moi, on a Akira, Arms s'inspire d'Akira, l'attaque des titans s'inspire de Arms. On a un cheminement presque parfait. Qui va s'inspirer aujourd'hui de l'attaque des titans ?
Beaucoup d'auteurs, je pense.
Clairement. Je vous propose un deuxième interlude maintenant. Et
oh
on
oui,
va
Max,
parler.
Un deuxième interlude.
Ah ouais, je vais vous parler des auteurs. Qui sont Kyoichi Nanatsuki et Ryoji Minagawa ? Alors, je vais surtout parler de Ryoji Minagawa parce que Arms, il est dessinateur, mais tu sens que quand tu vois le placement des auteurs sur la couve, comment ils en parlent, etc., que Kyoichi Nanatsuki, il était consultant scénariste.
Comme Adeline, non ? Ou le dessinateur, au final, le dessinateur,
ah oui,
il finit la série, enfin, il poursuit la série tout seul.
Rien à voir avec Kyoichi Nanatsuki. Je me suis dit, merde, il a travaillé sur Adeline aussi.
J'ai juste fait un parallèle très rapide. Ouais, on a la même carrière d'auteur.
Au dessin, Ryoji Minagawa, qui commence donc son travail de mangaka à la fin des années 80, et on le retrouve donc pour son premier succès qui s'appelle Spriggan. Et ce qui est amusant, c'est à cette époque-là qu'il n'est pas le scénariste de Spriggan, il n'est pas officiellement le scénariste de Arms, et on retrouve beaucoup de points communs, je trouve, entre les deux, et je trouve ça assez amusant. Il enchaînera après avec un one-shot, puis donc avec Arms, en 1997. Ça durera près de 5 ans pour donc 22 volumes. Ouais. Il n'a pas chômé. Et c'est là, après Arms, qu'il sort son premier manga en tant qu'auteur complet, où il n'y a que son nom sur la couverture. Ça s'appelle D-Live, l'histoire d'un homme qui a le don de pouvoir tout piloter sans apprendre. Et donc forcément, le gouvernement va s'intéresser à lui pour lui confier des missions militaires, etc. C'est sorti chez Kabuto en France à l'époque. Malheureusement, il n'y a eu que 5 tomes de publiés sur les 15. Donc c'est un manga très 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 oublié, D-Live. J'adorerais le relire.
Encore un petit truc à la Adeline, hein, je trouve, gouvernement, tout ça, les missions.
Il est très très gouvernement, organisation secrète, etc. Et puis ensuite, on a donc eu Peacemaker. Donc là, on a un personnage de pistolero qui est sorti en France chez Glénat, puis Caio Dante qui rappelle un petit peu Spriggan, qui est en cours de parution en France chez Vega, avec Louis Napoléon dedans. Et aujourd'hui, donc depuis 4 ans, il est publié dans l'Afternoon, aux côtés de Journey Beyond Heaven, aux côtés de Vinland Saga, avant que ça soit terminé. Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, où Kraken Mare, avec un manga donc appelé Hellhound, toujours en cours de publication dans l'Afternoon. Et donc au scénar d'Arms, c'est Kyoichi Nanatsuki. Et lui, il a toujours été uniquement scénariste ou concepteur d'histoire. J'aime bien ce rôle.
Mec qualité de base.
Créateur de contenu de texte.
Et donc, c'est sa deuxième série. Après, il enchaîne quelques années avec un autre titre nommé Eight Man Infinity, dans lequel le héros peut déclencher un artefact qui lui confère le pouvoir de se transformer en machine. On n'est quand même pas loin. Utile pour lutter contre une organisation internationale. C'est sorti chez Black Box. Puis ensuite, on le retrouve sur Area-D, 14 tomes, chez Picasso, si vous vous souvenez.
C'est trop bien, ça.
Ou The Arms Peddler, aux côtés de Night Owl, mais qui est en pause depuis plus de 10 ans maintenant et qui ne se terminera...
Ah, mais reviens, Nanatsuki, là.
Qui ne se terminera jamais. On ne sait pas lequel des deux fait la tronche.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt un truc commun de éditeur, scénariste, auteur.
Tout le monde boude.
Ouais.
Donc on n'aura jamais la fin de The Arms Peddler.
Ouais, mais peut-être, je crois qu'il y avait une fausse fin en Corée, je sais plus, il n'y a pas un truc...
Quelqu'un a décidé de la créer.
Ouais, ok, d'accord.
Je m'en renseignerai.
Mais en plus,
frère.
Non, mais en plus, Kyoichi Nanatsuki, il a aussi écrit sous un autre pseudo. Bref, ils ont des bonnes carrières, hein, l'un comme l'autre. On n'est vraiment pas avec des débutants sur Kyoichi Nanatsuki et Ryoji Minagawa. Mais c'est surtout Ryoji Minagawa qui a influencé Hajime Isayama sur l'attaque des titans. Parce que il l'a déclaré, et quand il est venu en France à l'époque, Hajime Isayama, l'auteur de l'attaque des titans, il a déclaré « Arms est l'un des mangas qui m'a le plus inspiré dans la création de l'attaque des titans. » Et je tiens à vous prévenir juste avant que pour pouvoir en parler correctement, on va être obligé de spoiler un petit peu l'attaque des titans. Pas grand-chose, mais quelques éléments un peu importants. Quoi.
Moi, ce que j'ai vu dans cette interview, il a dit « C'est Arms qui m'a donné la passion du manga. » C'est pas juste qu'il lui a inspiré l'attaque des titans, c'est ce qui a donné sa vie, si tu veux. Arms, il a lu Arms, il a fait « Vas-y, je vais faire du manga. »
Alors, il en a dit un petit peu plus sur d'autres interviews où il détaille pas de manière ultra précise.
Il a ses influences, il y en a énorme.
Mais il le reconnaissait effectivement comme le manga qui l'a influencé. Moi, j'ai d'abord vu une influence structurelle dans la manière dont l'histoire s'est conçue. Parce que quand Isayama parle de Minagawa, il évoque l'impact, il évoque la mise en scène. Et il évoque la puissance visuelle. Et en ça, je trouve que ça correspond énormément à ce qu'on ressent dans l'attaque des titans. Tu sais, les explosions soudaines de violence. Quand un être humain, attention, spoil encore, un être humain nommé Eren se transforme en titan. C'est pas un énorme spoil. Hein. Mais bon, on sait jamais. Quand il se transforme, voilà, il y a une explosion soudaine de violence. Il y a le poids du corps. C'est énorme, les titans, ça, c'est très très lourd. Et les bras dans Arms, ils sont... peut-être pas aussi lourd que le poids d'un titan, mais il y a une histoire d'impact. D'ailleurs, il y a même un peu cette sensation d'impact organique dans les deux, avec la brutalité, cette explosion de transformation, que je trouve assez proche en tout cas.
Il y a un truc qui se regroupe en tout cas, c'est vraiment sur le ton très mature, je trouve, où très rapidement tu trouves que le récit il a un ton différent. Et d'ailleurs, même quelque part dans la structure, tu vois, on démarre avec trois persos. Donc moi j'étais un peu en mode Mikasa, Eren, j'avais ça aussi en tête quand je le lisais. Si autant il y a un côté, je pense, grandiloquent qui impose l'attaque des titans qu'on trouvera pas dans Arms, ça m'étonnerait pas, n'empêche que parce que là en plus dans le premier tome il parle bien d'une première transformation, d'une première forme et d'une deuxième forme d'ailleurs, donc tu sais que ça peut que ça va évoluer. Et oui, je trouve que dans le ton il y a vraiment un truc très pesant dans ces deux séries. Il y a un truc très pesant dès le début, même si Arms au début essaye de te faire croire un petit peu à genre oui c'est un quotidien de jeunes japonais,
lycée, hein.
Mais au final, comme l'attaque des titans aussi, hein, le tout début on essaye de te faire croire que oui c'est un petit village et bam d'un coup il y a un titan qui débarque.
Oui, il arrive vite.
Donc il y a quand même cette fracture qui se fait de petits trucs un peu idylliques et bam d'un coup la réalité de leur univers s'impose.
Il y a un truc marrant parce que au tout début de Arms, on te dit mais vous serez quatre. Tu vois, il y a Chloe qui dit vous êtes quatre à avoir des Arms. Sauf que t'as Chloe qui a deux bras qui sont totalement alors c'est pas la même mutation là. Mais ils sont cybernétiques. Derrière on a Kiss qui arrive. Il a l'air d'avoir légèrement quelques modifications aussi, donc du coup tu te dis mais attends,
mais je suis grand frère.
Ils sont quatre ou ils sont beaucoup plus et là aussi il y a cet inconnu avec donc la monstruosité du corps, la monstruosité interne. Et là je trouve que la parenté entre les deux œuvres elle s'agrandit encore, parce que dans Arms on a le monstre qui est dans le héros, le pouvoir biologique qui va le transformer, le corps qui devient l'arme, la mutation qui révèle quelque chose de psychologique, et ça dès le tome 1 de Arms on nous fait comprendre qu'on l'a implanté en eux, c'est pas naturel. Et ça met un peu plus de temps, autre spoil, dans l'attaque des titans, mais là aussi on l'implante dans Eren, ce titan, c'est pas un truc naturel chez lui. Et en plus, l'un comme l'autre, on te fait pas croire que c'est un super pouvoir comme dans d'autres mangas dont on a parlé là juste avant. À chaque fois c'est plus des malédictions monstrueuses qu'autre chose. Alors ça va être utile, mais Eren, on lui dit pas t'es super Eren.
Non, mais c'est surtout qu'au début il a pas le contrôle de son bras, du coup il y a une parenté qui se fait vraiment de t'as de la puissance mais c'est compliqué de la retenir. Et je pense qu'on est exactement comme tu le dis, parce que l'attaque des titans, qu'est-ce que ça raconte, attention léger énorme spoil, ça va parler de l'héritage que les parents et les grands-parents ont laissé sur leurs enfants, où on passe notre temps à le dire que la plupart des shonen racontent ça, la plupart des titres racontent ça, en fait t'es un peu la victime collatérale de l'héritage de tes parents. Et dans Arms, rien qu'avec le statut du père, tu comprends qu'il y a, comme tu dis, ça a été implanté, donc il y a une histoire avant, son père a disparu. Du coup, il y a forcément cette parenté que je trouve très tragédie, tu vois, tragédie un peu grecque, un peu à l'ancienne. Tu es l'héritier des problèmes de tes parents, tout ça.
Puis c'est vachement bien amené dans l'histoire, puisque c'est pas explicité clairement, mais on comprend ce côté implantation à partir du moment où on rencontre le troisième Arms. où lui, on connaît tout de suite son histoire et on sait que effectivement, c'est suite à un accident de la route qu'il a perdu ses deux jambes et donc il a deux jambes mutantes. D'ailleurs, c'est donc aussi un manga de jambes, Arms.
Oui, bah c'est ce qu'ils ont dit, les deux premiers, on dit « Ah, Arms, je pensais que c'était bras, mais comme lui, il a des jambes, c'est peut-être pas ça, Arms, effectivement. » Parce que le vrai manga, le vrai nom du manga, c'est Project Arms. Mais de toute façon, le début du tome, c'est le héros qui est en salle d'opération et on lui met un bras. Donc on le revoit après, donc on sait qu'il y a eu un truc chelou, mais on sait pas quoi.
Et il y a un autre point que je trouve assez similaire entre l'attaque des titans et Arms. Alors évidemment... J'ai cherché, hein. Ça m'est pas venu comme ça. Je me suis dit, ok, il s'est inspiré l'un de l'autre. Donc, toute ma lecture du premier tome double de Arms, j'ai cherché. Donc, effectivement.
T'as encore fait ton conspirationniste.
J'en rajoutais un petit peu.
On t'avait dit d'arrêter.
Non, je suis contenté des mangas. Et je trouve que la progression au début des récits sont assez similaires, dans le sens où les deux mangas commencent par un récit assez action-survie, très direct. Pareil pour Ajin, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Puis progressivement, ça dérive vers une sorte de complot mondial, vers des manipulations soit historiques, soit publiques. Et ça, on l'a même dès le début dans Arms, ça arrive beaucoup plus loin dans l'attaque des titans, avec des organisations secrètes et une redéfinition totale du monde qui prend une certaine ampleur dans l'attaque des titans. Mais tout ça, c'est quand même très années 90 quand on y pense.
Ah bah en tout cas, il y a ce côté où les premiers tomes servent vraiment à subir, comme tu dis, pour les personnages, ils subissent l'action parce que déjà, ils ne la comprennent pas, donc c'est le temps de la compréhension, mais il y a toujours ce passage dans l'attaque des titans, typiquement, où bah en fait, l'humanité va contre-attaquer au bout d'un moment, et dans Ajin, t'as exactement la même chose de, oui, mais à un moment, on a bien subi, mais maintenant, il faut qu'on contre-attaque et qu'on reprenne le contrôle de notre destin.
Et enfin, autre point, c'est ce rapport au corps non maîtrisé qui est bien présent dans les deux mangas. La transformation, par exemple, elle est partiellement involontaire. Si on se souvient bien, Eren, il décide pas de se transformer tout de suite. Ryo ne décide pas de transformer son bras tout de suite. Alors, c'est bien utile, hein, mais c'est pas une décision réfléchie, contrôlée, quoi. Et on a même des alliés qui sont terrorisés dans les deux cas, hein. Et
non, ça suite à une émotion violente la plupart du temps.
Et ça aussi, c'est un autre point commun. Et puis, comme le troisième Arms, cette puissance qu'ils ont en eux, elle les dépasse totalement. Et c'est vrai que quand je repense aux crises de transformation de Eren, il y a vraiment de ça. Il perd son contrôle et il a un regard très très bizarre. Et ce regard que tu as trouvé très humain dans Arms, moi je l'avais pas saisi comme un regard humain, mais comme un regard bizarre de « qu'est-ce qui m'arrive ?»
Ah, je suis en train de perdre mon humanité en live devant vos yeux.
Ouais, genre je panique, je flippe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce corps qui change ? Et donc voilà, je pense que Arms a probablement influencé Isayama dans ce côté violence lisible. Tu sais ce que c'est finalement avec des tout petits...
Des petits détails dans le dessin.
Qu'on peut te faire passer de la violence sans la montrer.
Après, c'est vrai que contrairement à Eren, pour le coup, le héros de Arms, il a l'air un peu anti-violence complet. Enfin, lui, il ne cherche pas la violence, alors que Eren, il a un vrai sentiment de vengeance dès le début.
Ouais, mais parce que Eren est dans un monde en guerre.
Et surtout, il a vu sa mère crever.
Eh ben, moi, j'ai cru que sa mère, dans Arms, j'ai cru qu'elle allait sauter assez vite, hein, vérité.
On n'a rien vu, juste le mec, c'est un survivaliste. Son père, il l'a éduqué pour vivre dans la forêt et faire des pièges, et puis voilà, hein.
Et on cherche le bunker, du coup.
Ouais, moi, j'aurais bien aimé être lui. Hein.
Bref, voilà. Ryo dans Arms et Eren dans l'attaque des titans, ils ont aussi une belle petite tragédie, hein, à base de « si je libère totalement ma puissance, je cesse d'être un être humain ». Et donc, dans les deux cas, les héros peuvent devenir des menaces. Et ça aussi, je trouve que c'est un autre point commun que je trouve intéressant.
Bah ouais, bah finalement, t'as tout dit, parce que moi, j'avais dit... Ado transformé en arme humaine, du coup la peur de perdre son humanité, la peur d'être un monstre avec ton monstre intérieur, les organisations secrètes, et du coup est-ce que les héros contrôlent leur puissance, et au final non, tu les contrôles pas, et à la fin ils le savent eux-mêmes, et bah, vous allez voir avec Arms beaucoup plus tard, et Arms on est un peu ancré dans cette histoire de, on n'est pas à l'époque IA dans Arms, on est à l'époque nucléaire, et il va y avoir ce truc dans Arms, tu fais ah c'est vrai qu'on est dans les années 90, vous allez voir.
Influence d'Akira, hein, ouais. Encore une fois, et bah voilà, on va pas spoiler ce qui se passe dans la suite d'Arms, mais on vous laisse pas tranquille non plus. C'est-à-dire que si dans l'attaque des Titans, vous avez eu mal au cœur parce que certains personnages disparaissent ou certaines actions des personnages principaux font mal à la tronche, bah, dans Arms, vous allez en avoir aussi. Et bah, ça, je trouve ça chouette, moi. J'aime bien quand on me laisse pas tranquille en tant que lecteur. Quand on essaie de me faire du mal. On tue mes personnages.
Et c'est vrai qu'en 22 tomes, il a bien géré son histoire. Parce que tu vois, Attaque des Titans, on est dans plutôt plus long. On est 42, je crois, plus de 40.
Et ouais, et puis pas la même époque, pas le même format. Pas,
oui, effectivement. Et c'est vrai que 22, c'est, on en a pour son argent, on est très content. Et on se dit pas, tiens, on veut plus. C'est juste, on a eu ce qu'on voulait. Il y a eu la dose parfaite de ce qu'il fallait. Moi, j'ai bien aimé mes 22 tomes.
Ça m'a donné quand même envie de relire l'attaque des Titans, moi. J'ai envie de relire Arms et l'attaque des Titans maintenant.
Moi, c'est ce moment avec Historia qui me chamboule. Au moment où il lui prend la main et tu fais « Ah ouais, d'accord. »
Il est tellement bien ce moment dans l'attaque des Titans.
C'est ce moment qui définit tout le manga pour moi.
Bref, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission sur ce nouveau genre, sous-genre de manga, le manga de bras. Je sais que vous ne connaissiez pas ce genre.
Mais c'est parce qu'en fait, il n'existe pas en français. Mais le fist manga... très connu en anglais.
Et sur certains sites, bien faire... évidemment, spécialisés.
Mais je vais faire une conclusion.
Oui, parce que c'était pas ça que t'avais noté dans ta conclusion. Non, on est d'accord que t'avais pas parlé de fist manga.
Et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas noté dans la conclusion, parce que là, maintenant, c'est pas préparé.
Mais parce que j'avais une super conclusion qui est, que les monstres ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, ils sont déjà dans notre corps. Bref, le manga,
je parle des
mangas de bras. Mais dans tous les mangas qu'on a donné, on a souvent la même question qui repart, qui est à partir de quand cesse-t-on d'être humain? Donc c'est une idée qui aujourd'hui est omniprésente dans la SF moderne, mais franchement, Arms le travaillait déjà de façon assez frontale avec les transformations physiques, la peur du pouvoir, l'instinct destructeur, bref, le regard des autres sur les gens qui ont été modifiés, et ça, on le voit partout aujourd'hui.
Cagnard, comment souhaites-tu conclure cette émission?
Alors, je comptais finir par toute une diatribe de « mais non, le bras, tout ça, pop culture », un petit peu ce que j'avais fait en intro, mais je me propose plutôt de vous poser une question. On parle de l'attaque des Titans, mais de quel Titan on parle ?
Dans l'attaque des Titans ?
Ouais,
dans le titre. Titans nuls, c'est ceux qui sont autour des murs ?
Eh ben, je sais pas, parce que au début du titre, quand tu lis l'attaque des Titans, bah, c'est les Titans qui viennent du monde extérieur.
Oui, bien sûr.
Et qui s'occupe de la défense ?
Bah, les Titans qui sont dans le mur.
Bah,
spoil, pardon.
Ils ne peuvent pas faire la défense.
Mur et j'ai oublié de dire spoil.
Est-ce que l'attaque des Titans, c'est le grand terrassement ? Ou est-ce que c'est les premières attaques qu'on voit dans le manga ?
Pour moi, c'est les premières attaques.
Je pense que tu devrais revenir au titre en anglais.
Attack on Titans ?
Voilà, ça te donne
l'attaque
réponse.
Dans le Titan.
Encore le Titan. Encore cette histoire
l'attaque
de fils.
Sur le Titan.
Le monstre est à l'intérieur du mur.
Attends, réfléchissez.
Non, mais
voilà,
en japonais, c'est Shingeki no Kyojin. Donc
mais de
c'est
quel titan ?
Titan qui attaque. Ouais.
Allez, je vous laisse là-dessus.
Merci,
bonne soirée, tout le monde.
Très bien, merci Cagnard.
Eh ben, conclusion. Hein.
On retrouve Arms en librairie. Gros pavé, gros tome double pour le tome 1. Il est disponible en librairie depuis le début du mois de mai. Et donc, août pour le tome 2, novembre pour le tome 3. C'est ce qui est prévu pour le moment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de nouveautés manga. Un petit guide de lecture pour l'été. Là, on va revenir sur le mois dernier, les mois à venir. Est-ce que vous allez pouvoir emporter en vacances pour lire cet été. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao, salut.
Salut. Pas de bras, pas de chocolat, bonsoir.